Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elena Noguera est le contraire d'une grande fille toute simple. Elle est une grande fille très complexe, très spirituelle, très combattante, avec un imaginaire d'auteur, une culture inouïe d'autodidacte et du talent. Ou plutôt des talents. Bref, elle est la reine de la piste, comme nous le prouve son nouvel album solo, sensuel, ironique, élégant, qui fait la part belle à la bossa nova. Cet album a pour titre Nu, il lui ressemble furieusement. Tant mieux.
Europe 1.
Bonjour Elena Noguera.
Bonjour Isabelle.
Alors chère Elena Noguera, souvent autour de vous on murmure « Hélène, elle est douée pour trop de choses ». Alors parfois, les gens s'y perdent. En effet, quand on est à la fois une vraie actrice, un vrai auteur et une vraie chanteuse, sait-on bien comment le monde vous envisage ?
Oui, c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Je pense que pour les gens, c'est pas très clair. Je pense que ce qui ressort le plus, c'est quand même maintenant la comédienne, parce que quand je participe à des films qui ont du succès, c'est visible. Je fais maintenant des séries à la télé,
Apparence dernièrement.
Voilà, ouais. Apparence sur France 3 ou des téléfilms qui ont leur succès quand même, ne soyons pas modestes. Et du coup, les gens, ils m'ont assimilée comédienne. Après, c'est vrai que il y a un public qui sait que je chante, parce qu'en fait, j'ai commencé comme ça en 89, donc ça fait quand même un bon bail. Je vais fêter mes 30 ans de carrière, de rien comme ça, tout en discrétion, c'est marrant. Et voilà, puis les livres, c'est pareil, c'est comme si c'était des cases différentes. Mais je pense que je serais, plutôt assimilée comédienne maintenant.
Et puis si on rajoute à ça la beauté, parce que vous avez une plastique de rêve qui a fait de vous, au début de votre carrière mannequin, vous cerner devient assez compliqué. Parce qu'en plus, de votre propre aveu, vous lâchez Elena Noguera. En fait, il y a plein d'Elena. Voilà, c'est par envie de ne pas choisir, de ne pas se définir, de ne pas être définitive. Donc ça signifie que être vivante, pour vous, c'est ne pas être définitive.
Oui, il y a de ça, c'est exactement. C'est que... On dit souvent « mais on n'a qu'une vie » et moi je trouve qu'il en faut plein. Je suis très consciente depuis l'enfance que la vie va passer très très vite et que donc c'est un clin d'œil et qu'il faut en profiter. Donc j'ai envie d'un maximum d'expérience et avec le peu de choses que je sais faire, j'essaye d'en faire un maximum.
Alors là je vous contredis tout de suite parce que Elena Noguera elle fait tout bien. Vous êtes très forte pour brouiller les pistes, parce qu'effectivement, cinéma, séries télé, les romans, les albums. Mais en fait, rien de ce que vous faites avec talent dans votre vie ne peut remplir entièrement votre vie. Il faut l'addition de tout ça.
Oui, il faut l'addition, il y a une espèce de boulimie. Et c'est vrai que j'ai trouvé ces manières-là, parce que je ne suis pas diplômée, je n'ai pas fait d'études. Après, c'est des chemins qui font que je n'ai que ça à faire. Et heureusement, j'y arrive. J'ai une facilité, une capacité à écrire ou à chanter. Donc ça, je remercie le ciel et le travail, parce que j'y travaille aussi. Donc je remercie le ciel et moi. Ce que je veux dire par là, c'est pas que je ne travaille pas. Mais quand je dis je ne sais rien faire, c'est que je n'ai pas de diplôme, je ne pourrais pas inventer, je ne pourrais pas aller travailler dans un monde dit normal. Vous voyez, je n'avais pas trop le choix, il faut que je fasse j'invente un cirque.
Il faut qu'elle invente un cirque, dit-elle. Alors ce nouvel album, qui est porté par la bossa et enregistré avec de grands musiciens de jazz, il a pour titre « Nu ». Cet album, il est pétillant, il est délicieusement ironique, mais il y a 3 ou 4 textes bien infusés quand même par le temps qui passe. Mm-hmm. Vous avez la trouille du temps qui passe.
Oui, mais pas comme on croit. Pas parce
De quelle manière alors ?
Pas parce que, oh là là, la beauté s'en va, oh là là, mon Dieu. Non, parce que ça rétrécit le champ des possibles, parce qu'on compte le temps qui reste, parce qu'on se rend compte que tout est allé très vite et qu'on croyait que ça serait plus long que ça. Et en fait, ça devient organique et physique et on le sent dans son corps quand vraiment le temps commence à passer et qu'on peut compter en années qui restent plutôt qu'en... voilà.
Alors, vous êtes... offert des duos hors normes dans votre carrière de chanteuse Elena Noguera, puisque il y a quelques années vous avez chanté avec la cantatrice Nathalie Dessay, soprano coloratour de renommée mondiale, même s'il ne s'agissait pas d'un registre lyrique à cette époque-là. Voilà, mais quand même il fallait assumer face à elle. En fait, vous êtes une discrète qui carbure au culot.
Oui, c'est ça. Et puis des fois, la vie, elle vous emmène. Par exemple, Nathalie Dessay, évidemment, je n'en avais jamais rêvé, puisque quand on chante comme moi, c'est-à-dire avec une voix, je ne dis pas que je chante mal, je ne suis pas en train de me dénigrer. Moi, je trouve que je chante pas mal, mais je n'ai pas une grande voix à la Céline Dion, et encore moins comme celle de Nathalie Dessay, qui effectivement est une diva et qui chante du lyrique divinement bien. Donc, je n'ai jamais rêvé même de chanter avec elle. Donc, quand on vient me chercher en me disant, veux-tu faire un album de bossa nova avec Nathalie Dessay, je rigole et je serais bien bête de ne pas y aller. Donc, au lieu d'avoir peur et de dire, oh là là, mon Dieu, non, je ne peux pas me mesurer à cette personne, je me dis, mais oui, quelque chose va en sortir et je vais bien apprendre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris. Ça m'a donné confiance. Et puis, j'ai vu que finalement, chacune avait sa spécificité. Mais en fait, ça me plaît parce que ça me ramène à ma philosophie même d'un monde, c'est-à-dire qu'on peut tous être ensemble, on peut tous être très différents et faire les choses très différemment, et on apprend tous les uns des autres et on peut se côtoyer. Donc moi j'essaye d'exploser les frontières, c'est-à-dire que j'ai pas honte de chanter avec Nathalie Dessay du tout. J'ai pas honte d'appeler Julio Iglesias, et j'ai chanté avec lui dans Taratata il y a des années.
Bon. Oui.
Et c'est vrai que je n'aime pas les frontières, je n'aime pas les familles, je n'aime pas tout ce qui se ferme en fait.
Et c'est parfait parce que ainsi vous nous faites voyager. Europe 1. Et justement, cet après-midi, ben voilà, on fait l'école buissonnière en compagnie d'une femme absolument délicieuse de tempérament, Elena Noguera, qui nous offre son nouvel album baptisé Nu, qui paraît chez BMG. On fait une pause très courte, on la retrouve tout de suite.
Il est tout juste 15h09 et vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et son invitée Elena Noguera.
Elle fait tout bien, Elena Noguera. Qu'elle joue la comédie, qu'elle écrive des romans, des chansons ou qu'elle chante. Son nouvel album a pour titre Nu, il sort chez BMG. Et le voyage sur fond de bossa nova est vraiment formidable. Alors chère Elena, vous dites avec une ironie touchante, mon père, il aurait aimé que je sois Marguerite Duras.
C'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai, il avait beaucoup d'espoir en ma capacité intellectuelle. J'étais une très très bonne élève, j'étais très réceptive à l'apprentissage et puis j'étais curieuse. Et donc lui-même est un grand intellectuel, c'est un écrivain, c'est quelqu'un de très très cultivé. Et donc il aurait aimé, oui, sans doute que je sois plus sérieuse ou que je fais de grandes études. Ou parfois en rigolant, il disait, mais t'aurais dû être prix Nobel, être chercheuse. Il ne le dit plus maintenant. Parce que oui, mais il avait ces espoirs-là. Mais maintenant, le temps est passé et il a vieilli, moi aussi. Et puis, dernièrement, il disait qu'il se rendait compte de la difficulté d'être une femme dans ce monde et d'aller au bout de ses envies et d'être comme ça indépendante. Enfin, je pense qu'il m'a...
Il vous admire pour d'autres raisons aujourd'hui.
Voilà, il m'a rendu quelque chose, oui. Je ne sais pas quoi, mais...
Alors, ce papa, effectivement,
oui.
Intellectuel, plutôt post-68,
oui,
n'est-ce pas
ça.
Et qui vous a élevé dans le culte de Bergman, de Pasolini, de Buñuel.
Oui.
Il vous a fait grandir au milieu des livres.
Oui.
Est-ce que c'est lui qui vous faisait lire à l'âge de 12 ans l'œuvre de l'écrivain anarchiste Octave Mirbeau? C'est lui qui vous l'avait glissé dans les mains?
Non, ça non. Mais non, lui, c'était plutôt Thomas Bernhardt. Effectivement,
oui.
Il nous faisait regarder les films de Pasolini et de Bergman à 10, 8, à partir de mes 8 ans. Il m'a montré des films un peu, je pense, un peu...
Pasolini à 8 ans.
Oui, c'était un peu trop tôt. Buñuel aussi, je me souviens de La Voie lactée, où je me disais, bon, je ne voyais pas trop, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Mais du coup, effectivement, Octave Mirbeau, Journal d'une femme de chambre, c'était quand j'étais à l'école, je devais avoir 11 ans, et la prof nous avait demandé de lire La nuit des enfants rois de Lenterik, et j'avais commencé et je n'aimais pas. Ça me faisait peur, ça m'effrayait, donc je suis allée la voir. Je lui ai expliqué en quoi je n'aimais pas ce livre et que je ne vois pas pourquoi je devrais me subordonner à ses ordres. Et donc, elle m'a demandé, comme ça, un peu de haut, ce que je proposais en échange. Et je lui ai dit, je vais lire le journal d'une femme de chambre. Et c'est vrai que c'est elle qui m'a fait réaliser que c'était peut-être un peu tôt. Elle m'a dit, vraiment, vous allez lire ça à votre âge. J'ai dit oui, et elle m'a laissé faire. Et effectivement, après, dans les devoirs et les rédactions, j'étais la seule qui rendait un devoir, non pas sur le livre imposé par la professeure, mais un livre proposé par mes soins.
Et en faisant une analyse qui était fidèle, en fait. C'est-à-dire que vous l'aviez reçu comme vous auriez pu le recevoir en le lisant à l'âge de 15-16 ans.
Oui, j'imagine, puisque j'avais quand même des bonnes notes. Je n'avais pas des 18 et des 20, j'étais un élève surbrillant, mais je devais avoir 13, 14, c'était digne.
Alors, on a compris que vous avez reçu donc, Elena Noguera, on va dire une éducation plutôt libertaire, sans oui. jamais entendre le moindre discours sur la notion de réussite. Mais je voudrais savoir comment ont réagi vos parents lorsque, soudain, votre sœur aînée, Lio, à l'âge de 16 ans, s'est faite, j'ai presque envie de dire, avalée par le star system en devenant une égérie pop et en gagnant de l'argent comme jamais aucun autre adulte de votre famille ne l'avait fait. Oui. Parce que ça impacte forcément
toute
énormément
la famille.
De choses.
Oui, ça modifie tout. Et puis, il y a la jeunesse, c'est-à-dire que ce que je peux aujourd'hui analyser, c'est aussi parce que je suis même déjà maintenant plus vieille que eux ne l'étaient. À ce moment-là.
Oui.
Donc évidemment, je peux avoir un regard bienveillant sur ces jeunes adultes qui se font dépasser par ça. Mais c'est vrai qu'une jeune fille de 16 ans qui commence à gagner beaucoup d'argent, qui devient le pouvoir d'achat d'une famille, en plus d'être une icône et d'être portée au nu et photographiée dans toutes les télés, enfin, ça crée quelque chose de... En fait, c'est comme un tsunami de joie.
Oui.
Dont on ne comprend les conséquences que bien après.
Oui, oui,
sur le moment, c'était joyeux, c'était drôle, tout était excitant, tout était merveilleux. On est déménagé, on avait une belle maison, mais qui était payée par elle. Et tout devient malade après.
Oui.
C'est après qu'on
D'ailleurs, vous
comprend.
Avez une formule assez forte, radicale. Vous avez dit, j'étais une sorte de dommage collatéral.
Oui, ça c'est sûr.
Quand j'étais enfant, quand j'étais ado.
Oui, parce qu'en fait, vous n'existez plus. Enfin, ils ne se rendent pas compte, mais moi non plus, je ne me rendais pas compte. Je n'étais pas en plainte et je n'étais pas en souffrance.
Bien sûr.
C'est a posteriori que je me rends compte qu'il y a eu de la douleur et de la souffrance. Mais moi, j'ai très bon caractère et je maquille la douleur. Je me mets dans le film d'Alice au Pays des Merveilles et, et j'avance en trouvant que tout est... Ouah, c'est génial, tout le monde a l'air un peu dingue, mais ça va être drôle. J'en fais une réalité, donc... Mais c'est vrai qu'avec le recul, je vois bien qu'effectivement, quand vous avez une petite fille de 10 ans qui est en construction et que toute la lumière est sur une autre et qu'on ne vous voit plus et qu'on ne vous demande jamais
c'est
si ça va.
C'est pas simple pour elle.
Si, voilà, et c'est compliqué. Donc, se construire là-dedans a été difficile, mais je l'ai fait vaillamment et joyeusement.
Elena Noguera, vous êtes née à Bruxelles. Parce que vos parents donc, avaient fui la dictature de Salazar, qui verrouillait le Portugal depuis les années 30, depuis 1933.
Oui.
Et vous dites, remerciez le hasard qui vous a fait naître chez les Belges, ce peuple doué pour l'absurde et le surréalisme, qui contrebalance bien la saudade des Portugais. Oui. Donc vous avez en vous ces deux aspects, n'est-ce pas?
Oui.
Assez antinomiques.
Absolument. Dernièrement, j'ai trouvé une autre définition. Je dis, je suis un viking de la Méditerranée.
Et c'est bien, il y a le côté combattante,
oui,
guerrière.
Oui, c'est ça. On sent la guerrière. On sent que j'ai pas froid quand l'eau est froide. En même temps, il y a la Méditerranée qui est là quand même. Donc oui, les deux. Je sens que je suis vraiment le fruit de ça. Et j'aime beaucoup le côté belge. Et puis aussi parce que c'est un monde très différent. C'est-à-dire que maintenant, le Portugal est plus comme ici. Mais... je suis née en 1969, donc dans les années 70 et 80, il était plus en retard, c'est-à-dire que même pour les femmes, pour toute la liberté que moi j'ai acquis et qui me constitue, oui, ça a été un cadeau de naître plutôt en Belgique.
Et il n'empêche que la Belgique, quand même, vous l'avez quittée très tôt, puisque à l'âge de 15 ans, vous avez commencé une carrière de mannequin qui vous a fait beaucoup voyager.
Oui.
Hein alors, juste avant qu'on fasse une pause, j'aimerais quand même savoir, parce que vous avez déjà signé 3 romans, je voudrais savoir comment l'adolescente que vous étiez à ce moment-là, nourrie de littérature et avide de mots, future actrice donc et future chanteuse, comment elle s'est vécue sur papier glacé dans un emploi muet?
C'était très dur et en même temps, j'avais conscience de ma chance. Et donc, mon esprit critique était là. Je voyais bien que je jouais un drôle de rôle, je faisais commerce de ma beauté, je voyais bien tout ça. Et en même temps, ce qui était formidable, c'est que je voyageais. Quand vous tombez chez les Maasai à 15 ans, ça vous change la vie. J'étais chez les Maasai pour du Vogue. Donc évidemment, c'est incroyable comme clash.
Oui, oui.
Mais
le choc des cultures, des mondes.
Oui, le choc des mondes. Mais justement, la mise en perspective, je voyais bien qu'on était ridicule avec nos robes et nos photos et que finalement, la vie était peut-être plus vraie là. Vous voyez, ça me permettait toujours de tout remettre en perspective. Et ça m'a construit telle que j'arrive aujourd'hui.
Oui, parce que vous avez ce talent d'analyse permanent.
Oui, c'est ça. Et je suis tout le temps... voilà, c'est... Mes parents m'ont permis ça parce qu'ils avaient le sens de l'analyse et de la critique et du regard sur les choses et de les décortiquer. Et puis ce métier, et puis les voyages, et puis les rencontres et mon tempérament font que, effectivement, j'essaye toujours de comprendre que tout ça ne sont que des concepts et des rôles que l'on joue tous plus ou moins à la perfection, voilà, mais sans en être trop impressionnée, et en trouvant ma liberté là-dedans et en laissant celle des autres aussi, en essayant d'avancer sans trop de souffrance aussi. Enfin, voilà.
Elle est passionnante, Elena Noguera. On s'interrompt un bref instant et on la retrouve tout de suite.
Il est 15h20, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec Isabelle Morizet et son invitée Elena Noguera. La comédienne et chanteuse se met à nu à l'occasion d'un nouvel album.
Son nouvel album lui ressemble, sensuel et spirituel, comme elle, Elena Noguera. Cet album a pour titre « Nu » et cette conversation également est sans phare. Alors, chère Elena, partir vivre à New York comme mannequin à l'âge de seulement 15 ans, c'est très tôt pour larguer les amarres. Est-ce que vos parents en comprenaient vraiment les écueils potentiels ?
Non, je crois pas. Je crois qu'ils comprenaient pas. Je pense qu'ils avaient un peu peur. Ils devaient sentir qu'il y avait une volonté de ma part de fuir ou de partir. En fait, j'étais farouchement volontaire dans cette envie.
Donc, ce n'est pas un talent scout qui vous avait repéré, par exemple, dans une rue de Bruxelles ?
Si, si, si. À la sortie d'un concert, une femme est venue me voir et m'a demandé si je voulais faire mannequin femme. Mais j'avais 14 ans.
Oui.
Et j'en ai profité pour filer. C'est-à-dire que, de fil en aiguille, ils m'ont proposé d'aller à Milan, à New York, à Paris. Et moi, j'avais besoin d'air parce que j'étais la sœur de Lio et l'école, ça devenait très compliqué d'être la sœur de Lio. Ce n'était pas être la sœur de Lio qui est compliqué. C'est comment les gens me le renvoyaient.
Oui,
ça devenait difficile. Et donc, je suis partie. J'ai profité de ça. Donc, mes parents, eux, ils ont vu une gamine à qui ils faisaient confiance parce qu'ils me trouvaient sans doute vaillante et intelligente et capable.
Équilibrée, et voilà.
Et ils m'ont laissé partir. Bon, a posteriori, je trouve que c'est un peu foufou de laisser faire ça, mais voilà, c'est mon destin.
C'est son destin. Alors, votre père, Elena Noguera, oui. Il était musicologue. Votre sœur aînée, c'est
Lio.
Lio, donc, c'est Lio, la pop star en plus absolue de l'époque. Comment la musique vous a-t-elle rattrapée, vous ?
Alors, la musique a toujours été là parce que mon père donc, avait un groupe, était jazzman et jouait de la musique et faisait beaucoup de concerts. Il était musicologue, donc on parlait beaucoup de musique, il y en avait beaucoup à la maison. Et puis, avec ma sœur, on jouait aux Demoiselles de Rochefort à la maison. Puis elle devient chanteuse. Moi, je pensais plutôt devenir comédienne.
Oui.
Mais en tout cas, quelque chose devient possible. On peut devenir artiste et on peut traverser le miroir et pas ne faire qu'en rêver. Et donc, je suis mannequin, je m'ennuie, je commence à avoir 15, 16, 17 ans. Et ma sœur me dit, mais viens, t'as qu'à faire choriste avec nous. Et donc, me voilà devenant choriste. Et donc, j'ai pris une guitare, j'ai appris à jouer de la musique. Et de fil en aiguille, comme je faisais des castings et que j'arrivais pas à décrocher un rôle, eh ben, je me suis mis à écrire des chansons. Voilà.
Alors, peu de gens savent que pour le générique de son émission devenue culte, Lunettes Noires pour Nuit Blanche, Thierry Ardisson a utilisé votre tout premier single, oui. Lunettes Noires, qui était donc diffusé en générique de l'émission de 88 à 90, avant qu'il ne prenne le titre d'Iggy Pop. Donc, c'est vous qu'on entendait chanter dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche.
En fait, ça m'a fait beaucoup de bien à l'époque parce que cette émission était très populaire et fonctionnait très bien. Et donc, il a un peu mis la lumière sur moi parce qu'il m'aimait bien. Il aimait bien la gamine là, qui chantait ce truc-là. Et voilà, et ça m'a aidé. C'est un petit coup de pouce.
Mais votre identité musicale, Elena Noguera, vous l'avez forgée comment ? Parce que vous avez souvent flirté avec la scène underground tout en gardant une vraie fraîcheur pop. Acidulé.
Oui. Ouais, c'est gentil.
C'est étonnant, ça.
Oui, c'est les rencontres. En fait, ce qui était marrant, c'est que quand je me suis dit je vais faire de la musique, évidemment, comme vous êtes la sœur de Lio, ben vous avez envie d'être différente. Et donc, je connaissais le monde de la variété puisque je l'accompagnais là-dedans. J'étais sa choriste. Et subitement, je rencontre un monde parallèle qui sont les musiciens qui venaient de Versailles, qui sont Marc Collin et Xavier Jameau, qui eux avaient fait Olano. Donc c'est un peu la bande de R, les Daft Punk et Phoenix, c'est un peu cette scène-là. Il y avait Catherine que j'ai rencontrée à l'époque, Dorian qui maintenant est un auteur à succès qui écrit pour Mika par exemple.
Ouais.
Et donc voilà, et je rencontre cette scène-là et évidemment ben, j'ai envie de me démarquer. Donc voilà, je me plonge là-dedans avec eux. Et c'est que finalement, je ne les ai jamais lâchés. J'ai fait tout mon chemin
jamais
avec
lâché,
eux.
Mais sans être dévoré par la scène underground. Oui. En pouvant, selon vos humeurs, en fait, choisir chaque fois votre paysage musical du moment.
Oui, parce que je crois que j'ai un goût et un tempérament à exploser les frontières parce que je pense, après c'est une hypothèse, mais je pense que mes parents étaient vraiment très autoritaires dans la culture et dans... c'était trop intellectuel en fait à mon goût et c'était trop autoritaire. Donc j'avais envie d'exploser les frontières et pour moi, chez moi, aimer Sylvie Vartan, c'était très punk parce que c'était pas assez savant. Donc j'ai toujours eu le goût d'exploser les frontières parce que j'ai été élevée par des parents qui parlaient de pas être raciste et d'être ouvert à l'altérité, à l'autre. Mmh. Et je l'ai trouvé un peu raciste parfois
sur le plan culturel,
sur l'élitisme culturel. Et donc j'avais goût à essayer de marier les choses.
Alors votre nouvel album Nu, il est porté par la bossa nova. Et déjà en 2001, avec votre compagnon de l'époque, Philippe Catherine, vous aviez sorti un album de bossa. Serait-ce la musique qui vous ressemble le plus ? Parce que vous y revenez très, très souvent quand même.
Oui, j'y reviens très souvent et c'est vrai que ça me ressemble parce que ça sautille. C'est comme un film de Jacques Demy. Voilà. En fait, on peut dire des choses tristes.
Oui, parce qu'il y a la saudade derrière.
C'est ça. C'est triste, c'est mélancolique, ça souffre, mais en même temps avec cette politesse d'être toujours comme moi, souriante. Et je trouve que la bossa nova fait ça.
Elle fait ça. On s'interrompt un très court instant et on retrouve la belle dans une poignée de secondes.
Jusqu'à 16h, Elena Noguera est l'invitée d'Isabelle Morizet à l'occasion d'un nouvel album. On y retrouve ce titre « Je mens » en duo avec Vincent De Dienne. Vous êtes bien sur Europe 1.
Tu me demandes qui je suis.
Je te demande si tu me suis.
Je ne sais pas, je danse avec le temps qui va son l'embalancement.
Tu aimes le temps quand il se suspend, le souffle inattendu, le vent.
J'aime surtout qu'on se mente vraiment, quand on se parle de sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Tu es une image mouvante,
mais je peux être émouvante.
Je sais, tu danses comme le vent, et devant l'amour tu te rends.
À l'évidence et au tourment, moi le petit soldat, je me rends pourvu que toi, mon bel amant, tu me prennes par les sentiments. Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Dis-moi,
oui quoi,
m'aimes-tu vraiment?
Tu parles charmé, c'est évident, je t'aime.
Tu m'aimes?
Mais oui, vraiment, je...
Tu?
Je t'aime inexorablement.
Quand tu dis des mots, j'y crois pourtant. Pour toi ce sont des roses, des vents que tu offres en guise de serment. Tu parles comme une valse à trois temps.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens,
tu mens,
tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse,
tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense,
tu danses trop, c'est agaçant. Souvent.
Je danse.
Tu penses que c'est pour longtemps.
Je pense.
Tu danses trop, c'est agaçant.
Je mens.
Tu mens.
Tu es mon aimant, je t'aime.
Tu m'aimes, tu le dis souvent.
Je danse.
Tu penses que c'est pour longtemps.
Mais je pense.
Mais tu penses trop, c'est agaçant.
Un duo léger, écrit à quatre mains, Elena Noguera et le comédien Vincent De Dienne, a retrouvé sur le nouvel album de la chanteuse et comédienne intitulé Nu et dispo depuis le 29 mars. Et on en parle de ce nouvel album d'Elena Noguera, mais pas seulement. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, se poursuit avec Isabelle Morizet.
Alors, chère Elena Noguera, eh ben vous êtes la seule Belge de la famille. On sait oui. que vos parents ont fui le Portugal de Salazar pour s'installer avec votre sœur Lio à Bruxelles. Mais malgré votre attachement à vos racines portugaises et aux grandes dames, paraît-il, de la famille, mm-hmm. vous avez demandé la nationalité belge. Pourquoi
oui. Parce que je me sentais vraiment belge étant née là, puis toutes mes copines étaient belges, et puis mon école était belge, et mes professeurs étaient belges, et les rues que je connaissais par cœur, elles étaient. Et donc, quand vous êtes née de parents étrangers sur un territoire, c'est à 18 ans que vous pouvez choisir la nationalité qui vous convient.
Ouais.
Et donc, tout le monde a cru que j'allais prendre portugais, et j'ai dit belge, et ça, je les ai vus me regarder, mais... Pourquoi
avec l'œil noir oui. de circonstance.
Mais pourquoi ? Il me disait « tu n'es pas belge ». Je disais « mais si, pardon, excusez-moi, j'ai une culture belge, les odeurs, les rues, quand il pleut et que le béton sent, eh ben, ça sent le béton belge et pas portugais ». Et donc voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, après nous, nos enfants, donc les miens oui. et ceux de ma sœur sont nés en France, donc sont français.
Oui.
Donc en fait, je suis une espèce d'îlot. Belge, donc il y a les Portugais, les Français et puis la Belge toute seule au milieu. Et même mon fils, quand je lui dis « mais t'es un peu belge puisque t'es mon fils », il dit « mais maman, mais non, pas du tout, je suis portugais et français, je suis métisse, français, portugais, il veut pas de ma belgitude lui non plus ».
Alors, en fait, à Lisbonne, Elena Noguera, vous mm-hmm. avez acheté un pied-à-terre.
Oui.
Et il paraît qu'à Lisbonne, on vous considère pas du tout comme une portugaise. D'ailleurs, vous pensiez vous y installer pour y exercer votre métier d'actrice.
Ouais.
Il paraît qu'on ne vous proposait que des rôles de française.
Oui, ça n'a pas marché
du
tout.
On vous demandait de vous teindre en blonde.
Oui. Ça a été un échec total. J'ai acheté il y a 12 ans un petit endroit là-bas. Je me suis vraiment dit j'allais travailler là-bas et m'installer là-bas. Et ben, ça n'a pas du tout marché. J'ai donc tourné un rôle de française, effectivement teinte en blonde, dans un film sur Salazar. J'ai joué une maîtresse française. Et après, j'ai plus du tout eu d'emploi. Et donc, je suis revenue travailler ici. Parce que j'ai un accent, en fait. Quand je parle en portugais,
ah.
j'ai un accent français. Donc, d'accord. on entend que je
mais
suis pas
belge.
De là-bas.
Non,
pas belge. Et français.
Elena Noguera, vous avez du talent et vous êtes belle. Or, vous savez que la beauté, c'est une arme ou plutôt un pouvoir. Et vous dites, ce pouvoir, j'ai parfaitement conscience que, bah voilà, un jour, je vais le perdre.
Mm-hmm.
Est-ce que vous vous projetez dans 10 ou 15 ans?
Oui, des fois, je me vois en dame. J'aime bien la dame.
En
que
dame,
je... oui.
dites-vous.
Je voilà. trouve, oui, c'est... je deviens une dame. J'aime bien cette dame. En fait, ce que je trouve très puissant, c'est l'expérience. C'est la force de l'expérience. C'est-à-dire que quand on est très jeune, comme on débute, et puis tout le monde vous regarde et vous juge, il y a une peur, il y a une timidité, il y a une fragilité, qu'au fur et à mesure des années, il n'y a plus. Maintenant, quand j'arrive quelque part, je peux avoir un trac. Mais si je vais chanter, je sais que je sais faire ce travail-là.
Ouais.
Après, je suis d'accord que des gens ne m'apprécient pas ou n'apprécient pas ma voix ou ce que je propose. Mais ce que je sais faire, je sais le faire. Il y a ça, il y a aussi l'expérience qu'on voit quand les jeunes vous regardent. Ils ont dans les yeux, ils ont ce respect-là. Ils voient que vous êtes une dame d'expérience et ils sont contents de vous entendre parler. Je parle beaucoup avec les jeunes, ils aiment bien entendre la pensée qui s'est affûtée avec les années, ce que vous pensez des choses, la force que vous pouvez leur transmettre. Donc j'aime beaucoup ce que l'âge m'apporte. Donc moi, je ne pleure pas sur ce que je perds, mais je me réjouis de ce que je gagne.
Magnifique. Elena Noguera, vous qu'on connaît, allez, on va dire généralement à la télé, pleine d'une fantaisie acidulée et pétillante, vous avez une formule assez terrible pour évoquer cette peur de la fin des choses, de toutes
oui.
choses d'ailleurs. Vous dites « je suis en pré-deuil ». Elle est incroyable, cette formule.
Oui, mais en fait, ouais, c'est vrai. J'ai transformé ça, je dis, bon, avant mes funérailles, il faut que j'en profite.
Mais on parle pas de ça, mais simplement, voilà, du temps, pas qui passe, mais qui reste. De cette espèce de fuite
oui.
inexorable qui vous angoisse, d'ailleurs.
C'est
Est-ce
flippant,
que votre hyperactivité,
oui.
votre boulimie tous azimuts, elles viennent de là?
Oui, je crois que j'ai envie de profiter de chaque journée. Quand je me lève, je me dis, mais ça, c'est depuis longtemps. Hein. C'est parce que je deviens une dame. Même à 10 ans, je me disais oh, « aujourd'hui est un bon jour pour mourir, faisons quelque chose de beau ».
Vous vous disiez ça à 10 ans?
Oui, oui, oui. J'ai toujours eu conscience de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu conscience de l'impermanence des choses que je retrouve après dans ma vie, dans des lectures bouddhistes parfois. Mais donc j'avais ça, je suis née un peu bouddhiste, je dois dire. J'avais cette conscience-là et c'est ce qui donne mon caractère. C'est-à-dire que je fais beau les choses, vous voyez ? Je les fais belles parce que rien ne me sera rendu. Une journée perdue ne reviendra pas. Donc soit je prends le petit grain de sable qui m'a abîmé dans la journée et je le ressasse et je passe une journée comme ça à râler. Soit j'en fais quelque chose. Maintenant, ça c'est une parenthèse importante, évidemment, je dis ça, et s'il y a quelqu'un qui est gilet jaune, par exemple, et qui galère et qui est dans la merde, il se dit, mais comment elle parle, cette dame ? Et évidemment, tout ça est très relatif, et évidemment...
Mais vous êtes très connectée à la réalité.
Voilà, je parle d'un endroit où les choses restent faciles, mais quand les choses sont très difficiles, c'est plus difficile d'être dans ce genre de philosophie-là quand même.
J'entends bien. Mais alors, justement, en vous écoutant, Elena Noguera, je me dis, bon, le grand rôle taillé à la mesure de votre tempérament et de vos complexités, il arrive quand, ce grand rôle au cinéma ?
Écoutez, je ne sais pas, peut-être jamais, mais peut-être que ce n'est pas très grave. Comment dire ? C'est bizarre aussi à dire, mais je ne souffre pas, mais parce que je ne veux pas souffrir, donc j'ai un entraînement à ça. Ça s'entraîne, c'est-à-dire que je ne laisse pas ma pensée me dire que quelque chose est raté. En fait, mon plaisir à moi, il est dans mon travail. Donc mon travail, il est pour moi tout aussi glorieux dans le téléfilm que je vais tourner pour TF1 demain avec ces équipes-là que si d'aventure je tournais avec Lars von Trier. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est d'exploser les frontières et les hiérarchisations et de tous ces codes sociaux qui font que telle élite, c'est merveilleux parce que ça va à Cannes et ça a ce pouvoir-là. Et ces gens qui font du soap dans les chaînes, c'est merdique. Vous voyez, ça permet toujours la subordination des uns par rapport aux autres. Et je n'aime pas ces subordinations. Donc moi, dans ce monde, je ne peux pas souffrir de ça.
On a compris. Voilà. C'est en compagnie d'une belle personne qu'on se balade cet après-midi. Donc, on la retrouve tout de suite. Elena Noguera qui vient de faire paraître chez BMG son nouvel album baptisé Nu. A tout de suite.
Il est 15h40. Isabelle Morizet retrace le parcours de son invitée Elena Noguera à l'occasion de son dernier album.
Oui, un album peut-être élégant et parler d'amour avec un brin de férocité. C'est le cas du nouvel album d'Elena Noguera baptisé Nu. Elena Noguera, quand on vous voit en photo, aux côtés de votre fils, Tanel, qui est musicien et mannequin, et dont vous dites qu'il est un chic type, on peut vraiment aisément imaginer un couple, tant la différence d'âge n'apparaît pas. Vous l'avez élevé comment, Tanel ?
Alors, comment je l'ai élevé, mon Dieu, comme j'ai pu C'est une sacrée affaire d'élever
N'est-ce
un
pas,
enfant.
Quelle mission ?
Ouais, c'est un truc... Donc je pense que j'étais d'abord très gamine, j'avais 21 ans quand il est arrivé, donc il y avait quelque chose, c'était un peu comme une grande sœur, certes très responsable, mais il y avait beaucoup d'inconscience, c'est pas de l'inconscience, je laissais pas faire des choses dangereuses, mais ça me pesait pas.
Oui.
Donc il était comme un petit frère que je trimballais partout.
Il n'y avait pas de rigidité dans l'éducation.
Non. Tout était très souple. J'étais fascinée parce qu'à 12 ans, je me suis mis à lire beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau parce que mon frère a eu une enfant qui est née avec un bout de cerveau en moins. Donc j'étais beaucoup très intéressée par le fonctionnement du cerveau et de fil en aiguille, je me suis intéressée à la psychologie. Et donc j'ai fait beaucoup d'expériences avec le petit enfant qui était là. C'est-à-dire je ne mettais pas par exemple des barreaux au lit parce que je ne voulais pas qu'il voie le monde à travers les barreaux.
Oui.
Donc sa chambre était un espace tout à fait accessible. Il
n'y
avait
ouvert,
pas de
prise, fluide.
C'était ouvert. Il y avait un matelas pour deux personnes par terre, des jouets, mais il n'y avait rien de dangereux. Après, je faisais des expériences, j'ai appris à lire très vite. En fait, j'ai rendu un être très vite autonome parce que sans doute que j'avais besoin, moi, de mon autonomie. Et donc, on a vécu comme ça en parallèle, avec le recul, évidemment, parce qu'on se retourne toujours sur ce qu'on a fait, sur ses actes et ce qu'on a bien fait, et on se juge. Je ne sais pas si c'est super, mais...
Il a certainement dû vous dire qu'il était heureux de son enfance.
Oui, mais sans doute aurait pu mieux faire, comme on dit à l'école.
Mais on peut toujours mieux faire.
Oui, voilà.
Parents, c'est redoutable.
J'en suis dans une période où je me dis, oh mon Dieu, puisque j'ai un homme de 28 ans devant moi, c'est plus la même chose d'un seul coup. le bilan, il est plus fort encore, vous voyez, parce que c'est vraiment un adulte qui s'échappe et qui va commencer sa vraie vie d'homme à lui. Et là, alors, il y a plein de remises en question.
Mais vous donc, dites j'espère... c'est un chic type.
Ça,
donc,
c'est
voilà.
Sûr.
Donc la
ça,
mission a été bien menée.
Voilà, ça c'est réussi.
Alors, votre sœur Lio a fait 6 enfants.
Oui.
Et vous, vous en avez fait un. Elena Noguera.
Voilà,
un. Divergence de philosophie quant à, finalement, l'épanouissement au travers de la maternité.
Oui.
C'est ça?
Oui, et puis je crois que je suis quand même... Je suis vraiment un cow-boy, hein. Je vais toute seule sur mon cheval dans le désert. Hein.
Donc il fallait préserver votre indépendance.
Donc un, c'était déjà beaucoup, et puis je crois que j'ai donné pour 7. Donc oui, on est très différentes là-dessus. Puis elle avait envie, d'être entourée, sans doute. Je pense que c'est deux tempéraments très différents. Hein.
Mais longtemps, vous dites avoir eu le fantasme d'une famille de 3 enfants avec un homme qui serait le bon pour toute la vie, celui dont on se dit « nous vieillirons ensemble
oui. »,
c'est ça?
Oui.
Bon, vous l'avez eu longtemps ce fantasme-là?
Oui, je l'ai eu longtemps, mais vous savez, maintenant je me demande si c'était mon fantasme ou si c'est le fantasme des livres et des autres.
Le fantasme imposé?
Oui, je me dis mais finalement, qu'est-ce que je suis où moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Mes désirs existent où et quand? Et oui, je me suis rêvée, femme aimant, le même homme toute la vie, avec une famille et un chien et une maison. Bah, mais est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Peut-être que la vie que je mène, c'est celle qu'il me fallait.
Pourquoi n'a-t-elle pas abouti la demande d'adoption que vous avez faite il y a quelques années en faveur d'un enfant qui viendrait du Rwanda ou du Mali?
Alors, je pense que je ne suis pas douée pour déposer des dossiers et que je les
vous
dépose.
Vous avez bataillé avec l'administration, c'est
j'ai
ça?
J'ai un peu bataillé, mais vous savez, après, je ne sais pas si je soulève cette question-là, mais je me suis demandé à un moment donné, dans mes démarches, je les ai arrêtées parce que à un moment donné, j'ai demandé « Est-ce que l'enfant que je vais adopter est vraiment orphelin? Est-ce que vous pouvez m'assurer qu'il n'a plus de famille et que je peux aider quelqu'un qui est vraiment perdu au monde ?»
On ne pouvait
et
pas vous l'assurer.
Ils m'ont dit « Non, il y a beaucoup de familles qui doivent abandonner leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de les élever. » Donc ma question est « Au nom de quoi les besoins d'enfants des occidentales va se nourrir du malheur des pays du tiers-monde. Donc, si je tiens à aider le tiers-monde, je donne le budget de l'éducation d'un enfant à une famille. Mais je n'adopte pas et je ne me donne pas ce rôle-là. Donc, j'ai arrêté et je marraine des enfants.
Alors,
je...
on revient toujours, finalement, à l'amour qu'on a besoin de donner
oui.
et puis aussi de recevoir un peu tout de même. C'est la grande affaire de votre vie, ça.
Oui, mais...
C'est ce qu'on retrouve dans toutes vos chansons, d'ailleurs.
Oui, l'amour, c'est la grande affaire, mais je pense que c'est la grande affaire de tous. Donc, on peut l'appeler bienveillance, si on veut, on peut l'appeler respect. Mais effectivement, je trouve que l'amour est le sujet. C'est le sujet d'un homme politique qui doit faire son travail normalement avec amour. Le monde, là, il est en train d'exploser et on le voit parce que les gens réclament de l'amour. Les gens réclament de l'amour, il faut entendre respect. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où les puissances sont en train de faire un délire où le peuple est subordonné et écrasé parce qu'il y a des marchés à respecter et des dollars et gna gna gna. Et bien les gens, ils sont en train de dire non, nous on veut être traités avec amour. Ben, si vous mettez de l'amour partout, ça va découler de combien il faut à ces gens pour vivre décemment. Ben non, un SMIC, ce n'est pas suffisant, il faut augmenter tout ça. Donc, tout est question d'amour. Et d'ailleurs, hier, on était, j'ai enregistré l'émission de Ruki, on n'est pas couché, il y avait François Ruffin, et c'est le premier homme politique que j'entends mettre dans son discours, amour. Il a dit, il faut faire les choses avec amour. Et c'est passé un petit peu, pouf, à l'as, et j'avais envie de souligner ça. Je dis, ah, c'est drôle, et il a dit, avec amour. Et je pense que c'est un bon concept.
C'est un mot qui n'est pas souvent véhiculé en politique, n'est-ce pas ?
Non, c'est ça, ce serait beau. Je suis sûre qu'on peut changer le monde avec l'amour.
On retrouve tout de suite Elena Noguera.
En attendant de retrouver Elena Noguera au micro d'Isabelle Morizet, voici sa reprise de Maladie d'amour dans Les Salvador, sortie en 2017 sur Europa. 15h40.
Maladie d'amour, maladie des amoureux, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis, caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. Oh, n'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord, si vous le réveillez. Maladie d'amour, maladie des amoureux. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. L'amour est tout petit, c'est joli si joli. Mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris. Car l'amour c'est la mort, mais c'est aussi la vie. Car l'amour c'est la mort, et c'est le paradis.
Extrait de l'album hommage à Henri Salvador, réalisé par Louis Chédid. Henri a 100 ans, c'était Elena Noguera sur Europe 1. Et on retrouve Isabelle Morizet pour la dernière partie de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » en compagnie de l'artiste pluridisciplinaire Elena Noguera.
Elena Noguera, 25 films, 3 romans, 7 albums solo. Dites donc, c'est pas mal pour quelqu'un qu'on aime présenter comme une dilettante.
Oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai qu'on me présentait comme ça, dilettante, mais j'étais pas d'accord quand on disait ça. J'aimais pas. Après, je monte pas au créneau pour me battre. On dit ce qu'on veut.
Mais ça revient trop souvent dans la presse.
Mais je suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est parce que je fais les choses poliment. Je suis une grosse bosseuse. Je relève les manches, je tape aux portes, je gère. Mais comme je le fais avec la politesse et le sourire et que je le dis pas, je le crie pas sur les toits, genre oh là là.
Eh bien, pulvérisons l'adjectif.
Voilà, on le pulvérise.
Voilà, on le pulvérise. Bon, vous allez faire des concerts cet été, Elena Noguera, avec le nouvel album baptisé Nu. Il y a quelques mois, vous étiez en tournée avec le groupe Les Parisiennes, reformé dans un esprit très bande dessinée par Laurent Ruquier, avec Ariel Dombal, Maréva Galanteur, Ina Modja. Cet été, vous avancerez seule en scène pour chanter vos propres mots. Donc, on est vraiment à l'autre bout du spectre. Vous les imaginez comment, ces concerts, pour qu'ils vous ressemblent tout à fait?
Alors, cette fois-ci, il y aura une violoncelliste sur scène, un piano, une guitare et moi-même. Donc, c'est une petite formation avec quelques machines qui font des toutes petites rythmiques, un peu à l'image du disque. Ouais. Donc, un petit écrin plutôt... cosy, comme une chambre, comme dans un salon, comme si j'invitais à boire un cocktail sur la plage.
Et puis vous préparez aussi un spectacle musical type cabaret. Alors ça, c'est très intriguant. Qu'est-ce que vous nous réservez? Qu'est-ce que vous nous promettez?
Alors ça, ce sera la saison d'après. Donc c'est écrit avec Pierre Note, qui est un monsieur qui écrit beaucoup pour
donc
le
c'est pour
théâtre.
2020, ça.
2020. Et en fait, c'est autour des chansons. Donc c'est comme si on mettait ce dont je viens de vous parler, ce petit concert, on le met dans une pièce où on raconte le parcours d'une femme à travers toutes ces chansons.
Elena Noguera, vous faites toujours des sets de DJ cachés derrière vos platines pour faire danser les gens?
Ça m'arrive, ouais, j'en ai fait.
J'ai appris ça, c'est étonnant.
Ah oui, c'est marrant. Oui, j'aime beaucoup. Alors, j'arrive un peu à l'ancienne. Moi, je suis de l'ancienne mode parce que j'ai pas les ordinateurs.
Vous arrivez avec vos disques?
J'ai des disques dans les valises. On dirait une hôtesse de l'air parce que j'arrive avec ma petite valise, je pose mes disques et puis je fais. Et j'aime beaucoup le pouvoir. De faire danser ou pas. J'aime bien parfois, quand tout est très chaud et que les gens sont très excités, mettre un truc qui les refroidit et puis les voir s'arrêter et râler et faire « Ouh !» Je me dis « Mais c'est dingue, c'est très facile !» Et puis hop, je leur remets un disque qu'ils
un
aiment bien.
Un peu manipulatrice, hein ?
Oui, c'est voilà. Des bons moments, c'est assez drôle.
Bon, en faisant l'école buissonnière avec vous cet après-midi, on a bien compris, Elena Noguera, que votre curiosité, votre appétit vous font regarder loin, très loin, tout autour de vous. Alors, Picabia disait, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est le but.
Oui.
Faut donc marcher toujours au-delà du but. C'est ce que vous faites.
Ouais, marcher sans but, oui. En fait, pour expliquer cette petite phrase qui parfois peut être compliquée à comprendre, c'est que, disons... Que si dans la vie, vous vous dites « je veux être », alors pour qu'on comprenne bien, donc moi qui suis chanteuse, si je me disais « je veux être Madonna », eh bien, vous voyez, ma vie serait vraiment, ce serait compliqué, je serais triste parce que ben, je ne suis pas du tout Madonna, on est d'accord.
Donc, vous êtes Elena Noguera, c'est vachement bien.
Oui, mais voilà, en marchant sans but, justement, il n'y a pas d'obstacle,
bien
puisque
sûr.
La vie est fluide et je la prends comme elle vient, okay. Et c'est un cadeau, voilà.
Et puis autre devise que vous avez comprise, j'allais presque dire volée aux Maasai, non, comprise grâce à eux. Après tout, les Maasai s'en foutent, n'est-ce pas ?
Exactement, les Maasai s'en foutent. Hein ? Ouais, c'est vrai. Il faut aller sans se prendre trop au sérieux. La vie, finalement, j'ai l'impression que c'est plus simple que ce qu'on croit.
C'est plus simple ?
Oui, je crois.
Alors à méditer oui. En musique avec le nouvel album d'Elena Noguera qui vient de paraître chez BMG, qui a pour titre « Nu » et vraiment dans lequel il est urgent de plonger. C'était délicieux de se balader avec vous, chère Elena. On recommence dans
bien.
Peu de temps. Hein.
Oui, merci
beaucoup. On a encore
beaucoup.
Mille choses à se dire.
Oui, c'est chouette. J'adore venir vous voir. Merci
Je vous
beaucoup.
Embrasse, à très vite.
Moi aussi, à très vite.
Et c'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Isabelle Morizet revient demain, bien sûr, à 15h, toujours sur Europe 1, avec un nouvel invité, Matt Pokora, pour son nouvel album intitulé « Pyramide », annonciateur d'une tournée pharaonique à l'automne.